Guy Jutard, quelle était l'idée que vous avez voulu appliquer au théâtre des marionnettes de Genève?
Il y avait l'idée qui me semblait importante, quand on a la chance d'avoir un lieu comme celui-là, bien inscrit dans une ville, de donner de la marionnette l'image la plus large possible. C'est-à-dire qu'on sait que dans l'inconscient de la plupart de nos contemporains, la marionnette, c'est quelque chose d'un petit peu dérisoire, c'est pour les gamins, et quand on dit pour les gamins, c'est plutôt entre 4 et 7 ans, parce qu'au-delà, on va quand même pas leur présenter des marionnettes. Donc là, c'était l'idée de dire, attention, historiquement, la marionnette, c'est d'abord quelque chose pour les adultes, avant d'être quelque chose de spécifiquement pour les enfants, en tout cas quelque chose pour une communauté plus large, adultes-enfants, et puis, je crois que le monde de l'art et le monde des arts de la scène a eu pendant, on va dire, le dernier demi-siècle, un œil particulier vers aussi ce qu'était le jeune public. C'est allé en parallèle avec la conception de l'enfant qui a changé. Je veux dire, Piaget est passé par là, Françoise Dolto est passée par là, et on a vu que l'enfant n'était pas un sous-homme, mais un homme un peu particulier qui avait ses codes, qui commençait je veux dire, à rentrer dans le monde de la pensée, dans le monde de la vie sociale, et qu'on pouvait faire aussi des choses qui lui étaient plus spécifiquement destiné. Alors, toute la dynamique de ce théâtre, ben, ça va dans cette direction-là, dans ces directions-là, aller travailler pour des plus jeunes avec le même souci esthétique, en se disant quels sont les, comment on peut parler d'un certain nombre de choses à des très petits quand le langage, entre guillemets, n'est pas encore là, la parole, je veux dire, donc il y a un langage d'image, il y a des codes qui sont installés, et puis à l'autre bout de la chaîne, ben, on peut traiter tout ce qu'on veut avec les adultes, tout. On peut parler philosophie, on peut parler politique, on peut s'amuser avec des choses très légères. Et je pense qu'on l'a montré dans ce qu'on. Si on regarde les programmes de ces 10-11 dernières années, on a vu qu'on a traité vraiment de toutes sortes de choses, de thèmes, et surtout avec des modes d'approche de la marionnette à chaque fois différents. Et ça me plaît beaucoup, de montrer les images les plus diverses de cet art. Montrer la diversité des techniques, c'est pas. Je veux dire, je m'oblige pas chaque année à avoir un spectacle de marionnettes sur table, un spectacle de marionnettes à gaines, un spectacle, etc. Non, c'est le hasard fait que, tiens, là, telle technique est plutôt utilisée. Alors, il peut y avoir une année où il y a une dominante à fil, je ne sais pas, ou une dominante à gaines, ou un travail sur table, où il n'y a pas eu de dominante de théâtre d'objets encore, puisque dans toute cette liste de types de marionnettes, le théâtre d'objets, on va dire, et le courant contemporain du théâtre des marionnettes, et c'est un courant que je défends ici, parce que ce courant-là a ses travers aussi, quelquefois, d'une certaine gratuité dans l'utilisation de l'objet. Voilà, mais pour un certain nombre de spectacles qu'on présente ici, il y a une vraie, je dirais que l'utilisation de l'objet va participer d'une vraie esthétique. De même qu'on pourrait dire on fait absolument de la gaine, mais il y a de la gaine qui est ce que j'appelle de la gaine tocarde, c'est-à-dire que l'utilisation de marionnettes à gaine, inesthétique, mal manipulée et surtout pas adaptée à ce qu'on veut raconter. Parce que là, on est au cœur d'une chose importante, c'est que pour moi, par rapport à un thème donné, par rapport à un type de spectacle, il faut trouver une adéquation avec la technique qu'on va utiliser. On ne va pas faire avec des marionnettes à fil. Ce qu'on ferait 100 fois mieux avec des gaines, ça serait complètement idiot de le faire avec du fil. Le fil, porter un objet, prendre un objet et le déplacer avec du fil, c'est fastidieux à faire et c'est rarement bien réalisé. Alors qu'avec une marionnette à gaines, c'est tellement facile de prendre un objet et de le poser. Donc si je dirais, j'ai l'habitude de dire, s'il faut jouer à la dinette, hein, on va pas utiliser la marionnette à fil. Par contre, si on veut travailler dans la légèreté, travailler sur quelque chose, si on veut installer, entre guillemets, un univers d'une certaine densité poétique, alors le fil va nous permettre beaucoup, beaucoup de choses. Entre autres, pour moi, le fil, c'est très lié à la danse, c'est très lié à la musique. Donc, c'est comme ça que cette année, si j'étais amené à créer l'Échappée Belle, c'est que je l'ai pensé comme une chorégraphie d'ensemble. Et là, effectivement, les marionnettes volent, se posent à peine, repartent comme elles sont venues. On a comme ça tout un processus que permet la marionnette à fil. Donc, à chaque fois, le choix de la technique, il est vraiment en fonction du thème et oui, de la dramaturgie, ce qu'on va raconter.
Guy Jutard, est-il plus facile d'aborder des questions sociales ou politiques avec des marionnettes ?
On ne veut pas faire, entre guillemets, un théâtre social, c'est-à-dire qu'on va raconter une fable, et il se trouve que cette fable développe un certain nombre de caractères sociaux, on va dire, et de problèmes qui peuvent se poser. Il est évident qu'on ne va pas revenir ici, faire venir les spectateurs pour leur redire ce qu'ils voient toujours à la télévision. Et la marionnette, en ce sens-là, pour répondre plus spécifiquement à la question, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'il y a toujours une sorte de distance qui est donnée, et c'est encore plus on va dire cette distance par rapport au réel est encore plus énorme qu'au théâtre. Au théâtre, on peut travailler et se croire quelquefois presque dans le quotidien, hein, dans les modes de jeu, et on sait comment les approches théâtrales ont changé au cours du temps entre l'acteur studio, le travail de Grotowski, etc. etc. Avec la marionnette, il y a immédiatement une distance qui est donnée déjà par un code esthétique. Un petit personnage de marionnette à gaine, d'abord il marche pas comme un humain, il peut pas bouger comme un humain. Un personnage à fil pourrait essayer de bouger comme un humain, mais il y a toute une légèreté dedans et toute une inertie dans le mouvement qui donne quelque chose d'autre. Donc toutes les figures que l'on va donner font que, attention, déjà ça nous dit, attention, on n'est pas dans le quotidien, on n'est pas dans la rue, on est ailleurs. Alors ça, c'est un pouvoir énorme de la marionnette pour justement, en forçant le trait, nous montrer, je dirais, qu'à chaque fois la marionnette est tendue entre ce qui peut être le surhumain, c'est-à-dire racontons le monde des dieux, le monde des elfes, le monde ce qui peut dépasser l'humain, on va dire, hein, ou bien racontons le sous-humain, c'est-à-dire ce qui fait de nous le masque, l'animal, les pulsions, ce qu'on a dans la Commedia dell'arte. Hein, on a des caractéristiques un peu animales du personnage. Celui-là n'est qu'envieux, celui-là n'est que gourmand, celui-là n'est qu'avare. Hein, la marionnette permet vraiment, vraiment d'aller dans ces directions-là. Allons dans ces directions-là. C'est vrai qu'on va forcer le trait. Alors, certains critiques pourraient dire « Oh, mais c'est très caricatural ». Oui, bien sûr, on est dans un théâtre de caricature. On ne va pas reprocher à Daumier de caricaturer des gens. C'est le métier. Et c'est aussi le métier du marionnettiste. Alors après, si ça reste que caricature, ça veut dire que on va se lasser simplement de cette caricature, on va dire on manque d'émotion, hein, on va manquer de sensibilité. Alors on essaye toujours d'allier l'un et l'autre, mais cela dépend des thèmes et de ce qu'on veut montrer et comment ça tient dans la durée, etc. Mais on va dire que les thèmes sociaux, de même que les thèmes sociaux faisaient partie du théâtre de Brecht, les thèmes sociaux peuvent faire partie, je veux dire, d'un certain théâtre de marionnettes. On ne peut pas y échapper. Mais je veux dire, un thème social, il y en a plein dans les contes. Je veux dire, les contes qui sont la base, on va dire, hein, c'est truffé de ces choses-là. Souvent, le théâtre de marionnettes, dans son caractère théâtre de rue, a porté quelquefois des révoltes. Un des derniers grands gestes marionnettiques du XXe, c'est le bread and puppet. Et on voit ce que le bread and puppet a porté dans les mouvements des années 60, contre la guerre du Vietnam, contre l'impérialisme américain, etc. etc. Et c'est vrai que ça a donné des choses tout à fait fascinantes en matière de marionnettes et en matière d'images. Je pense qu'il y a certains endroits où, effectivement, il pourrait y avoir censure en disant ça on n'en parle pas, ou ça on ne va pas le montrer, ou voilà. Mais je ne sais pas, dans le prochain spectacle, je ne vais pas me censurer parce que Olivier Cacari a à un moment écrit quasiment une scène de partie fine, hein, puisque ça se passe dans un cabaret plus ou moins, et il y a trois call girls qui sont là, on finit par un jeu de jambes en l'air général, et qui, avec la marionnette et la distance que donne la marionnette, est quelque chose, à mon sens, qui devrait être quelque chose de tout à fait hilarant, quoi. Hein. Déshabiller une main pour jouer un striptease, c'est des choses tout, avec une distance qui donne... l'humour va prévaloir sur quelque chose qui serait peut-être montré à la scène, quelque chose de glauque ou voire d'obscène.
Dans un autre sujet, qui passe peut-être moins bien ou moins facilement que les parties fines, c'est celui de la critique du système financier que vous faites avec les lois du marché, que vous avez commandé justement à Olivier Caccari.
Oui, je suis dans la vie des banques, et c'est vrai que j'ai pas toujours été gentil avec les banquiers, qui est une à la fois une profession que je respecte éminemment, parce que quand on voit le rôle de la banque dans l'histoire du monde, et il y a un rôle très important, mais je dirais que ce beau rôle de la banque, je le trouve totalement dévoyé actuellement. Alors c'est vrai que je ne m'acharne pas, hein, sur les banquiers, mais c'est vrai que là, Olivier Caccari, c'est pas d'ailleurs spécifiquement c'est plus le milieu des affaires, hein, sur lequel Olivier Caccari va écrire. Disons, il articule, pour ce qui est de ce petit opéra bouffe, les lois du marché, il fait une triarticulation entre effectivement les politiques, hein, le milieu des affaires et le milieu ouvrier, en disant le milieu politique est un peu perdu, il ne sait plus où donner les directions, il est obligé de s'appuyer sur le milieu des affaires. Le milieu des affaires est par moments lui aussi pris dans des vagues pas évidentes, mais il va s'appuyer sur le milieu politique pour aller chercher de très bonnes conditions d'implantation, en faisant valoir que c'est effectivement ce qui va faire tourner la ville, le département, la région, etc. Et le milieu ouvrier est lui aussi un petit peu perdu dans ce marasme-là, voulant à tout prix garder son emploi, ce qui est tout à fait juste, tout à fait juste, mais à quel prix quelquefois, et avec quelquefois des revendications d'un autre âge, c'est-à-dire que le spectacle n'est pas tendre aussi pour ce qui reste du syndicalisme, on va dire. Donc Olivier Caccari ne prend pas vraiment parti là-dedans dans toute cette chose-là. Il prend pas directement parti, mais il tisse des implications entre ces trois sphères. Et je trouve que c'est assez intéressant. C'est fait avec beaucoup d'humour. Hein, c'est fait avec beaucoup d'humour. Ça pourrait être très cynique et je le voulais pas. Et entre autres, je sais que bon, j'ai suivi la genèse un petit peu de ce texte qui est presque terminé maintenant, et c'est vrai que je lui ai demandé de glisser là-dedans des petites choses. Je dévoile pas tout, mais voilà, je souhaite à chaque fois qu'on puisse se raccrocher à quelque chose de même dans les choses les plus désespérantes, et Dieu sait si actuellement on peut être dans le désespoir face à cette crise sociale très très profonde. Mais y a-t-il eu un moment sans crise sociale? Je ne sais pas, dans l'histoire de l'humanité. Hein, mais en tout cas, qu'on puisse se raccrocher à quelque chose d'humain, qui nous dise bon, allez, on continue quand même, on continue.
Comment est-ce que vous voyez cette tendance à l'élargissement, vouloir mélanger ces publics?
Alors moi, j'ai une chance inouïe ici, parce que c'est quand on travaille dans un lieu pour le jeune public, on a les enfants ne peuvent pas venir tout seuls, ils viennent avec les parents, donc les parents sont obligés de suivre, quelquefois ils sont agréablement surpris, d'autres fois pour certains on sent que c'est un pincemme un peu, mais en règle générale c'est assez étonnant comme... Et ça, c'est formidable, c'est quelque chose de très philosophique, comment les enfants aident les parents à se développer, à s'intéresser à un certain nombre de choses. Ça, c'est, moi, je suis très, très surpris ici, et des parents le disent. J'aurais jamais mis les pieds dans un théâtre de marionnettes si j'avais pas un môme. Et on a des adultes que je retrouve après dans les spectacles pour adultes en disant on fait garder les enfants parce que finalement il se passe des trucs incroyables ici. Bon, c'est pas la majorité, mais c'est ça. Après, l'élargissement du public ici, on peut guère faire plus large parce que travaillant pour des très petits et des adultes, après c'est plus de se dire... C'est les mélanges de publics. C'est vrai que c'est un peu la problématique sur Genève. On a les clients de la comédie, les clients de Carouge. Les clients de Carouge n'ont pas toujours à la comédie, et inversement. On a les clients du lyrique. Alors c'est vrai que pour avoir créé ici, il y a quelques années, Assis et Galatée de Handel avec Neville Tranter, on a vu débouler dans notre théâtre tout un public du lyrique qui n'avait absolument pas l'habitude de mettre les pieds ici.
Justement, est-ce que ce public ne fait pas plutôt partie d'un public favorisé ?
Si, bien sûr, bien sûr. Enfin, je veux dire, c'est des gens, déjà des gens qui ont engagé, entre guillemets, une démarche spécifique par rapport à aller dans un lieu culturel, aller dans un lieu de théâtre. Alors, ça, c'est vrai que, on mène ici un travail auprès des entreprises, pour essayer de favoriser que le personnel des entreprises vienne dans notre lieu. C'est d'autant plus favorisé qu'ils y emmènent leurs enfants, donc ça, là aussi, c'est un atout pour nous. On travaille au niveau de certains quartiers, de certaines classes d'âge, tout ce travail-là est fait. Et puis, ce qui, pour moi, est fondamental dans un lieu comme celui-ci, c'est tout le travail qui est mené, et c'est pour près de la moitié du public, enfin moins de la moitié, 40% du public qui vient ici, c'est qu'il y a tout ce lien avec le monde éducatif et le monde scolaire, et ça fait partie de nos missions, avec le Théâtre Amstramgram entre autres, c'est qu'on participe à ce travail culturel qui est inscrit dans le temps scolaire, c'est-à-dire qu'au sein même du temps scolaire, les enfants viennent voir les spectacles tant ici qu'au Théâtre Amstramgram.
Donc, dans le biais de l'école, toutes les classes sociales sont touchées.
Voilà. Et ça, pour moi, je dis souvent, c'est un pilier, c'est fondateur. C'est fondateur dans cette maison. Et quand on me dit, est-ce que vous avez une idée de la sociologie de votre public, je dis oui. Quand je viens les voir ici, je vois qui vient et tout ça. Mais je dis, la vraie sociologie, c'est aussi quand les classes viennent et que j'ai un mélange de classes des Avanchais, des classes de Champel et de la classe de l'école primaire de J à l'autre bout du canton. Et c'est ça, les marionnettes. C'est-à-dire, le théâtre de marionnettes, c'est ce mélange-là qui se fait sur l'instant et qui se fait alors là, de la façon la plus large possible. Et on va dire, là, il y a un accès pour tout le monde. Et il faut, il y a quelques années, on commençait tout d'un coup à entendre des choses sur ce public dit captif que l'on traînait quasiment de force dans les théâtres. Je veux dire, on le traîne de force dans les écoles pour apprendre à lire, à compter, écrire. Et il faut arrêter de... faut arrêter sur ce sujet. Je veux dire, dès lors que ça fait partie de ce travail, on fait tout pour favoriser aussi l'accès, c'est-à-dire on ne fait pas un travail pédagogique, ils ne viennent pas suivre un cours de théâtre ou une classe où on va tout leur expliquer, ils viennent accéder à un travail artistique et on fait en sorte que les enseignants aient les moyens de réaliser cette médiation. C'est-à-dire que il y a nos dossiers pédagogiques, Bertrand Tapollet qui s'occupe de ça, fait une très large médiation sur la bibliographie, les thématiques, les musées qui sont en lien avec. Et je pense qu'un enseignant intéressé sur un spectacle peut tout à fait faire un travail autour, sachant que ce travail n'est pas indispensable pour tous les spectacles. Il y a des moments où on peut venir ici le cœur libre et léger et on vient voir un spectacle et on en reparle après ou 3 mois après ou voilà. Après, c'est affaire de sensibilité. Il ne faut pas non plus que le moment, le temps artistique devienne un pinsum comme pourrait l'être une mauvaise leçon de calcul ou de littérature, parce que ça peut être aussi un bonheur d'avoir un très bon maître qui nous enseigne à bien compter ou à bien lire ou à bien écrire.
Genève Active.ch